La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant. Elle lui...
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Voilà, donc merci pour Elliot à la régie technique. Voilà pour ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Ravi de vous retrouver, Michel. Bonjour, bienvenue à Wood Radio. C'est votre famille, hein, 131e. Ça y est, j'ai réussi à le placer. De temps à autre, je repose la question, combien d'années de chronique?
Eh ben,
je veux pas vous piéger.
Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Et on a commencé en septembre 2014. Ça fait un peu plus de 10 ans.
Voilà, chaque fois je m'en rappelle pas.
Même plus de 11, en fait.
À mon grand âge, je m'en rappelle pas, mais c'est bien de me rafraîchir la mémoire. Alors Michel, ravi bien sûr de vous retrouver. Voilà pour une nouvelle chronique et ben, de suite on va ouvrir, enfin vous allez ouvrir bien sûr hein, cette chronique et nous parler d'actualité avec notamment des nouvelles des missions à habiter.
Oui, elles ne sont pas bonnes pour Artemis 2. Lors de ma précédente chronique le 4 février, la dernière répétition complète avant le lancement venait juste d'avoir lieu et s'était malheureusement soldée par un échec, car il y avait eu des fuites d'hydrogène liquide sur la connexion permettant le remplissage des réservoirs, une anomalie très grave car elle produit une accumulation d'hydrogène autour de la fusée, rendant cet environnement très inflammable pour ne pas dire explosif. J'avais laissé nos auditeurs sur la perspective optimiste que le problème pourrait être résolu assez rapidement, afin que le lancement puisse être porté à la prochaine « fenêtre de tir », comme on dit, qui commence le 6 mars, à la fin de cette semaine. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien et que le tir ne pourra pas avoir lieu avant le 6 avril. Je ne donnerai pas plus de détails pour le moment, car je reviendrai plus longuement sur le programme Artemis, tout à l'heure, dans la rubrique « Thème du mois », car il y a beaucoup plus à en dire.
Et il y a eu une relève des astronautes à bord de l'ISS en février.
Alors en effet, la dernière fois, nous avions évoqué le retour anticipé de l'équipage de la mission Crew 11 pour raison médicale qui avait eu lieu le 15 janvier au lieu de la mi-février comme prévu. Du coup, le lancement de Crew 12 avait été anticipé de quelques jours avec un décollage de leur fusée Falcon 9 dès le vendredi 13. Hein, au passage, je note qu'on n'est pas superstitieux en astronautique malgré l'accident d'Apollo 13. Et leur capsule Crew Dragon et son équipage de 4 astronautes ont rejoint l'ISS, la Station Spatiale Internationale, le lendemain 14 février, après un vol d'environ 35 heures. Il comprend 2 astronautes de la NASA, la commandante Jessica Meyer, dont c'est le deuxième séjour à bord de l'ISS, la première fois en 2019-20 pendant 7 mois, le pilote Jack Hathaway, le cosmonaute russe Andrei Fediaev, je pense, qui a déjà séjourné dans l'ISS 6 mois en 2023, et la plus médiatisée en France et en Europe, la spationaute française de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Sophie Adnaud, âgée de 44 ans, qui a été recrutée en 2022 et pour laquelle c'est la première mission spatiale. Avec ses collègues, elle doit passer 8 mois en orbite, leur retour étant prévu en octobre, ce qui pourrait lui donner l'occasion de sortir extravéhiculaire, opération très délicate et dangereuse pour laquelle elle s'est entraînée. Mais je reviens sur l'incident du Crew 11, car on en sait un peu plus depuis les informations révélées par la NASA la semaine dernière, même si elles restent encore un peu floues, secret médical oblige. Alors que l'identité de l'astronaute nécessitant ce rapatriement sur Terre en raison d'une urgence médicale n'avait pas été révélée, on sait maintenant qu'il s'agit de Mike Fink, âgé de 59 ans, pilote de la mission, dont c'était le quatrième séjour à bord de l'ISS, après ceux de 2004 et 2009, avec des capsules Soyouz et à chaque fois pour environ 6 mois, puis une courte mission de 2 semaines en 2011 avec la navette spatiale Endeavour, dont c'était le dernier vol. Il assure aller bien aujourd'hui, mais le peu qui a été dévoilé par l'agence spatiale fait penser qu'il a été victime d'un incident médical assez grave, car selon ses dires, je le cite, « J'ai eu le 7 janvier un problème de santé qui a nécessité l'intervention immédiate de mes formidables coéquipiers et grâce au conseil des chirurgiens de vol de la NASA, mon état s'est rapidement stabilisé. Cela ressemble donc à une crise aiguë surmontée grâce à des opérations de premier secours d'un ou plusieurs autres astronautes à bord et une téléconsultation médicale d'urgence requise par son collègue japonais Kimiya Yui. Bien entendu, sa sortie dans l'espace prévue le lendemain a été annulée et la décision d'un retour sur Terre anticipée a été prise les jours suivants car, et là je cite l'agence spatiale, le diagnostic nécessitait une forme d'imagerie médicale avec des moyens techniques avancés indisponibles sur l'ISS, ce qui fait penser à un scanner ou une IRM. Aujourd'hui, l'astronaute se veut rassurant sur son état de santé et dit simplement poursuivre la procédure standard de remise en condition au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston. Cet incident s'est bien terminé, mais il nous rappelle que les missions spatiales restent des opérations risquées, ne serait-ce que par l'isolement des équipages et l'éloignement de la Terre. Même si c'est seulement, si je peux dire, à 400 km au-dessus de nos têtes, bien loin des 380 000 km qui nous séparent de la Lune ou les millions de kilomètres pour Mars.
Alors toujours dans l'actualité, la version la plus puissante d'Ariane 6 a réussi son premier lancement.
Oui, alors comme la plupart des lanceurs, Ariane 6 peut être configuré dans différentes versions, un peu comme un mécano, en fonction des missions à réaliser. Depuis son premier tir d'essai du 9 juillet 2024, avec une charge fictive et quelques mini-satellites CubeSat, puis les 4 vols commerciaux suivants en 2025, c'est toujours la version de base qui a été utilisée. Cette configuration est dite 62, le 6 pour Ariane 6 et le 2 pour 2 fusées d'appoint. Elle est composée d'un gros premier étage qui assure la propulsion pendant les 8 premières minutes du vol, épaulé pendant 2 minutes par 2 fusées à carburant solide, dérivées du premier étage de la fusée Vega, qui assure l'essentiel de la poussée au décollage et qu'on peut facilement reconnaître de part et d'autre du réservoir principal. Ensuite, le relais est pris par le deuxième étage qui a la particularité de pouvoir être éteint puis rallumé dans le vide spatial afin de diriger des satellites sur différentes orbites. Ce qui a été démontré lors du lancement précédent, le 17 décembre, avec 2 satellites du système de positionnement européen Galileo. Mais il existe une configuration plus puissante, dite 64, équipée de 4 fusées d'appoint autour du premier étage, ce qui double pratiquement la capacité du lanceur, avec environ 20 tonnes en orbite basse au lieu de 10 tonnes. C'est cette version qui a décollé pour la première fois de la base de Kourou en Guyane le 12 février dernier, en emportant 32 satellites de la constellation Léo d'Amazon, connue auparavant sous le nom de Kuiper, un système de communication Internet direct concurrent des Starlink de SpaceX. Cela correspondait à une charge d'environ 16 tonnes, propulsée jusqu'à 630 km d'altitude, et un encombrement tellement important que la fusée était surmontée d'une coiffe spécialement rallongée, lui donnant une taille d'environ 70 mètres au lieu des 63 mètres habituels. À l'avenir, il est prévu de doter Ariane 6, dès cette année, d'une version plus puissante de ses fusées d'appoint, ce qui augmenterait sa capacité d'environ 2 tonnes supplémentaires.
Et la Chine réussit aussi un test important de sa nouvelle fusée.
Alors, c'est la veille du tir d'Ariane 6, le 11 février, que l'agence spatiale chinoise CNSA a réalisé un essai crucial pour la sécurité des futurs taïkonautes que ce lanceur emportera. Il s'agit de la capsule Mengzhou, destinée aux futures missions lunaires habitées, prévues vers 2029-30, mais qui remplacera aussi les Shenzhou actuels pour les trajets jusqu'à la station spatiale Tiangong, ou parfois on l'appelle Tian'e, du nom de son module central, dans laquelle orbitent en permanence 3 taïkonautes autour de la Terre, contre 7 en général dans l'ISS. Ce vaisseau spatial est assez similaire au Crew Dragon de SpaceX, avec une capacité de 7 passagers pour une mission en orbite basse, et 3 pour une mission lunaire. Pour cet essai, elle était propulsée par un prototype de la fusée Long March 10A, prévue pour les futures missions lunaires et dont c'était le premier tir, avec un premier étage conçu pour venir se reposer en douceur afin d'être réutilisée comme le Falcon 9 de SpaceX. Et cette manœuvre a été réussie le 11 février, sauf que par précaution, le retour à juste était simulé pour se terminer par une plongée en douceur dans la mer, à proximité de la plateforme qui devra le récupérer dans le futur. Pour la capsule Mengzhou, l'essai consistait à tester son dispositif d'éjection d'urgence en cas d'accident au décollage. Il faut bien avoir conscience que lors d'un tir de fusée, les astronautes sont ni plus ni moins qu'installés sur une véritable bombe potentielle, dont on doit en principe maîtriser une combustion lente pour assurer la poussée. Mais si ça se passe mal, il faut pouvoir très rapidement les éjecter d'un environnement très dangereux. Pour ce faire, il existe deux techniques possibles. Soit surmonter la capsule par une tour de sauvetage, qui est ni plus ni moins qu'une petite fusée, comme sur Mengzhou, ou doter la capsule de petits moteurs-fusées spécialement destinés à cette éjection, comme c'est le cas du Crew Dragon. Le test de Mengzhou a été concluant, puisque la capsule a bien été éjectée loin du lanceur, au moment le plus défavorable d'un lancement, c'est-à-dire quand la résistance de l'air est maximum, ce que les spécialistes appellent la pression dynamique maximale, puis elle est redescendue en douceur sous ses trois parachutes jusqu'à son amerrissage dans la mer de Chine. Encore une fois, les Chinois démontrent leur savoir-faire et le respect de leur planning, une situation bien différente des déboires de SpaceX avec son Starship, et leur prévision d'une mission lunaire avant 2030 est tout à fait plausible.
Alors, dans le domaine de l'astronomie, la disparition d'une étoile qui intrigue les astronomes.
C'est dans un article publié dans le dernier numéro de la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, publication mensuelle de l'Association Royale d'Astronomie, donc anglaise, qu'une équipe dirigée par Emma Bizor de l'Université John Moores de Liverpool et composée d'astronomes américains décrit ce qui a pu être une supernova ratée, comme c'est indiqué dans le titre de l'article. Ils ont étudié une étoile référencée M31-2014-DS1, hein, ça veut dire qu'elle est en fait située dans la galaxie d'Andromède, qu'on appelle M31, et que les événements la concernant remontent à 2014. Selon les données du télescope spatial infrarouge WISE, qui était en activité de 2010 à 2024, cette étoile estimée à 13 fois la masse du Soleil était l'une des plus brillantes de cette galaxie. Je dis « était », car cette supergéante a d'abord viré au jaune, puis émis principalement dans l'infrarouge à partir de 2014, avant de disparaître complètement en 2017, même à la vue des télescopes les plus puissants braqués vers elle, ce qui ne correspond pas du tout à l'évolution attendue. Je rappelle rapidement à nos auditeurs quelles sont les fins possibles pour une étoile. C'est un sujet que j'avais traité plus complètement dans la chronique « Mort des étoiles » en novembre 2019. Les petites étoiles comme le Soleil subissent une sorte de bouffée de chaleur qui les font se dilater en géantes rouges jusqu'à disparaître en nébuleuses en laissant leur cœur transformé en naine blanche très chaude et brillante qui mettra des milliards d'années à se refroidir. À partir d'environ 8 masses solaires, la fin est beaucoup plus catastrophique avec une énorme explosion appelée supernova qui laisse un résidu qui peut être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir si elle dépasse environ 20 masses solaires. On s'attendait donc à ce que cette étoile de 13 masses solaires explose en supernova, mais ça ne s'est pas du tout produit, d'où l'article sur une supernova ratée. Ce qui est intriguant aussi, c'est que le seul mécanisme pouvant expliquer ces observations serait l'effondrement direct de l'étoile en trou noir, sans passer par le stade explosif de la supernova. Processus qui reste hypothétique, mais ne correspond pas non plus à la masse de l'étoile qui était trop faible pour donner naissance à un trou noir, ce qui nécessite environ 20 masses solaires. À moins que ce mécanisme puisse se produire avec une masse plus faible, ce qui élargirait la population d'étoiles pouvant finir en trou noir. Ce n'est pas la seule hypothèse possible pour expliquer cette disparition silencieuse, si on peut dire, mais si ce processus existe, il pourrait expliquer le manque de supernova dans notre galaxie, car on n'en a pas vu depuis plus de 400 ans, c'était celle de 1604 observée par Johannes Kepler, alors que les estimations statistiques en prédisent beaucoup plus, environ 3 par siècle. Les astronomes poursuivent donc leurs observations de M31-2014-DS1 pour essayer de mieux comprendre ce qui lui est arrivé, avec de possibles conséquences sur notre compréhension des mécanismes de la fin des étoiles massives.
Enfin, le rover martien Curiosity confirme l'importance de l'eau dans le passé de Mars.
Ces dernières années, on parle plus souvent du gros rover Perseverance, posé à la surface de Mars en février 2021 pour rechercher des preuves de l'existence d'une vie passée, notamment en collectant des échantillons destinés à être apportés sur Terre pour être étudiés, perspective gravement remise en cause par le dernier budget de la nation où la mission de retour Mars Sample Return est supprimée. Mais il ne faudrait pas oublier son prédécesseur, Curiosity, aussi imposant et bien équipé pour analyser le sol martien, car il continue à explorer le fond du cratère Gale, où il s'est posé en août 2012. La NASA vient de publier un compte-rendu de ses travaux des 6 derniers mois, qu'il a passé à étudier un terrain assez intrigant, qui avait déjà été repéré par l'orbiteur MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, car constitué de petites crêtes et dépressions formant un réseau ressemblant à des toiles d'araignée. Il a mis en évidence que cette configuration résultait d'un assèchement du sol, alors que leur composition, surtout des argiles sur les crêtes et des carbonates dans les creux, dans les deux cas des roches produites grâce à la présence d'eau, indiquait que le niveau d'eau a été important à cet endroit dans le passé. Et dans l'un de ces échantillons analysés par son laboratoire embarqué, il a trouvé une abondance de composés organiques complexes. Donc en résumé, ce seraient les restes d'un lac asséché qui aurait pu contenir des formes de vie. On regrette d'autant plus la décision d'abandonner la mission de retour des échantillons prélevés par Perseverance, qui en permettrait l'analyse avec toute la puissance des laboratoires terrestres, bien plus sophistiqués que ce que peuvent faire ces rovers à la surface de la planète rouge.
Vous êtes toujours à l'écho des programmes d'Eau de Radio. C'est notre journal en ce mercredi 4 mars avec Michel Favret pour sa 131e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie de votre chronique avec le thème du mois, le programme lunaire Artemis complètement chamboulé.
Oui, alors nos auditeurs fidèles peuvent croire que je me suis trompé dans mes copier-coller en préparant cette chronique, car le programme Artemis était déjà le sujet traité le mois dernier. Malheureusement, une conférence de presse donnée la semaine dernière, le 27 février, par le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a complètement chamboulé la poursuite du programme lunaire et a rendu caduque une grande partie de ce que j'avais exposé. J'espère au moins que nos auditeurs sont indulgents avec ma manie de revenir si souvent sur les missions lunaires, mais je les laisse imaginer ce que ces programmes spatiaux peuvent représenter pour ma génération du papy-boom. Je rappelle que le 21 juillet 1969, j'étais un petit garçon de 10 ans, que ses parents avaient réveillé au milieu de la nuit pour voir sur la première télévision de la famille, en noir et blanc bien sûr, les images floues mais historiques des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Les journalistes pensaient que ce rendez-vous du 27 février serait surtout l'occasion d'évoquer la mission Artemis 2, reportée début février. Mais l'administrateur les a surpris en évoquant surtout la suite du programme pour les prochaines années. Concernant Artemis 2, voilà ce qu'on peut dire. Lors de la dernière répétition complète avant le lancement, prévue début février, des fuites d'hydrogène liquide avaient conduit à un échec, ne permettant pas de maintenir une date de tir en février. Mais lors de ma dernière chronique, je supposais qu'il pourrait avoir lieu en mars, ce qui ne s'est pas confirmé. Après la réparation nécessaire de ces fuites, qui a été réalisée sans que la fusée céleste ne quitte son pas de tir, une nouvelle répétition a été réussie le 20 février. Mais des fuites d'hélium ont ensuite été détectées le 23 février au niveau de son étage supérieur. L'hélium sert à pressuriser les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène liquide, et s'il vient à manquer, il devient impossible de rallumer le moteur dans l'espace. Dans ces conditions, Artemis 2 ne pouvait pas décoller vers la Lune. Et la réparation de cette anomalie nécessitait un retour du SLS dans le VAB, c'est l'énorme bâtiment d'assemblage du lanceur situé à plusieurs kilomètres du pas de tir, ce qui a été fait dès le lendemain 24 février. Même si la réparation était assez rapide, la fusée ne pourra pas être prête pour la prochaine fenêtre de tir qui commence le 6 mars. Donc dans le meilleur des cas, la mission devra attendre la suivante qui commence le 6 avril. Je rappelle qu'elle consiste pour la première fois à envoyer la capsule Orion avec un équipage de 4 astronautes pour exécuter un vol jusqu'à la Lune et effectuer une large orbite avant de revenir sur Terre. Une mission analogue à Apollo 8 en décembre 1968. Cela au moins n'a pas été remis en cause par Jared Isaacman lors de sa conférence de presse, contrairement à toute la suite du programme Artemis.
Mais vous pouvez nous rappeler, Michel, qui est ce Jared Isaacman, nouvel administrateur de la NASA ?
Alors j'ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises ici. Tout d'abord pour les missions spatiales privées financées par ce milliardaire américain qui a fait fortune dans le domaine des terminaux de paiement. Inspiration 4 en septembre 2021, où il a passé 3 jours en orbite avec 3 autres astronomes civils choisis par lui par lui, pardon, à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, modifiée en supprimant le système d'amarrage à l'ISS inutile et le remplaçant par une vitre panoramique pour mieux pouvoir admirer la Terre. Puis en septembre 2024, Polaris Dawn, pour 5 jours, encore à bord d'un Crew Dragon, sur une orbite très elliptique ayant conduit cette capsule à battre son record de distance avec la Terre, environ 700 km, et la première sortie extravéhiculaire réalisée par un astronome amateur, un astronaute amateur, mais partielle et après une dépressurisation complète de la cabine. Cette mission Dawn, donc je rappelle Aube en anglais, devait être la première de son programme spatial privé Polaris, qui prévoit ensuite une autre mission Polaris 2 avec le Crew Dragon, puis Polaris 3, annoncée comme la première mission habitée du Starship de SpaceX. On voit donc que Jared Isaacman est un acteur et fervent supporter du New Space, c'est-à-dire l'implication de plus en plus grande de sociétés privées dans le domaine spatial, et notamment avec son pote, si je peux dire, Elon Musk, patron de SpaceX. Et cela constitue évidemment un gros problème lorsque Donald Trump a commencé à envisager sa nomination à la tête de la NASA dès décembre 2024, avant même son arrivée officielle à la Maison-Blanche, avec les énormes conflits d'intérêts que cela ne manquerait pas de créer. Mais ces libertés prises avec les règles juridiques élémentaires ne sont-elles pas une marque de fabrique de l'administration Trump ? Malheureusement pour Jared Isaacman, la fâcherie du président avec son acolyte Musk au printemps 2025 aura raison de ce projet, car Trump, dans un de ses brusques retournements de situation dont il a le secret, décide le 31 mai de l'annuler à quelques jours seulement de sa ratification par le Sénat. Peut-être aussi parce que pendant ses auditions, il avait émis des réserves quant aux coupes drastiques dans le budget de l'agence spatiale par le duo Trump et Musk. Mais après un autre revirement, Trump a finalement confirmé sa nomination à la tête de la NASA fin 2025 et il a été approuvé par le Sénat le 17 décembre dernier et donc officiellement est devenu le 15e administrateur de l'agence spatiale depuis sa création en 1958. Reste que ses inclinations politiques et financières dans le domaine spatial ne manqueront pas de poser des problèmes dans le choix des orientations de l'agence, comme on peut déjà le constater dans ses récentes annonces concernant le programme Artemis.
Mais quels sont les chamboulements, justement, que vous avez annoncés au début de ce sujet ?
Alors, le premier est une totale surprise et doit être un véritable choc pour les 4 astronautes choisis pour la mission Artemis 3. Au lieu d'être les premiers à retourner fouler le sol lunaire depuis les missions Apollo des années 1970, ils n'iront même plus jusqu'à la Lune. Et leur mission se déroulera en orbite basse autour de la Terre. Au lieu de marquer le retour historique sur la Lune, probablement en 2028, Artemis 3, maintenant avancé à la mi-2027, ne sera plus qu'une répétition des manœuvres conjointes de la capsule Orion et du HLS, un peu comme Apollo 9 avec la capsule Apollo et le module lunaire LEM en mars 1969, seulement 5 mois avant l'alunissage d'Apollo 11, précédé par la répétition lunaire générale d'Apollo 10, 2 mois auparavant. Je rappelle à nos auditeurs que contrairement aux missions lunaires Apollo, où un seul lancement comprenait tout l'équipement nécessaire, la capsule et le LEM, les missions Artemis ont découplé les deux parties, avec la capsule Orion et ses 4 astronautes envoyés vers la Lune avec le lanceur lourd SLS, un Space Launch System, où elle rejoindra en orbite lunaire le HLS, Human Landing System, donc système d'atterrissage humain, chargé de faire la navette aller-retour avec la surface lunaire et ultérieurement avec une station en orbite lunaire assurant la jonction entre les 2 vaisseaux. Alors que la NASA avait choisi comme HLS en 2021 le Starship en version spécialement modifiée pour la Lune, Jared Isaacman semble mettre en question ce choix, probablement en raison des difficultés de mise au point du vaisseau de SpaceX. Et il remet en course son concurrent Blue Moon de Blue Origin, c'est une société de Jeff Bezos d'Amazon, de conception plus classique, assez semblable au LEM. Dans les 2 cas, il met une forte pression sur les fournisseurs de ces vaisseaux s'ils doivent être prêts dès la mi-2027 pour Artemis 3.
Et pour la suite, après Artemis 3 donc ?
Là, c'est sur la NASA et son lanceur SLS qu'il met la pression. Rappelant que seulement 9 semaines avaient séparé les missions Apollo 8 et 9, il déplore que les tirs du SLS soient tellement espacés. Plus de 3 ans entre Artemis 1, premier tir du SLS avec une capsule Orion sans équipage envoyée en orbite lunaire, et Artemis 2, prévu ce printemps. et il y voit l'origine des problèmes à répétition que connaît ce lanceur, avec des modifications majeures de conception, dans une démarche perfectionniste qu'il oppose probablement dans son esprit au processus itératif de SpaceX avec de nombreux essais et corrections. À terme, il souhaite une cadence de lancement beaucoup plus dense, d'environ tous les 10 mois, avec une plus grande standardisation du lanceur. Sur ce point, il remet en cause l'évolution prévue pour Artemis 4, où la NASA avait prévu de modifier l'étage supérieur de la fusée en l'équipant de 4 moteurs au lieu d'un actuellement, afin d'augmenter sa puissance pour emporter des charges plus lourdes jusqu'à la Lune, donc en ajoutant un module cargo à la capsule Orion. Au lieu de cela, pour cette première mission à ramener des astronautes sur la Lune, normalement dès 2028 et les suivantes, Jared Isaacman préconise l'adaptation du deuxième étage Centaur 5 qui équipe la fusée Vulcan de l'United Launch Alliance, un autre acteur privé du New Space, association de Boeing et Lockheed Martin dans le domaine des lanceurs. Il est clair que le nouvel administrateur de la NASA tente d'accélérer le programme Artemis pour ne pas se faire doubler par la Chine sur la Lune, en augmentant l'implication des entreprises privées du New Space sur les missions et en s'inspirant de leurs méthodes avec une plus grande standardisation des matériels et une plus grande cadence de tir. Reste à voir ce que cela donnera pour les autres missions de l'Agence spatiale américaine, notamment l'exploration du système solaire et les autres programmes scientifiques, dont je crains qu'ils ne connaissent une évolution marquée par une approche plus utilitaire et capitalistique des missions, comme les programmes de surveillance de la Terre, qui sont déjà passés par perte et profit par l'administration Trump, climato-négationniste.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio. Je rappelle, voilà, c'est en ce moment même notre journal du mercredi 4 mars 2026. Voilà, s'il fallait préciser l'année. Ravi de retrouver Michel Favré donc pour sa chronique astro numéro 131. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Pour voir les cartes du ciel et plus de détails. Je l'ai mise à jour pour Mars lundi dernier. Depuis le solstice d'hiver du 21 décembre, jour le plus court de l'année, les journées se sont largement allongées, mais l'observation du ciel nocturne peut se pratiquer encore assez tôt, le soir, car en ce moment le soleil se couche vers 18h45, la nuit arrive un peu avant 20h et le ciel bien noir vers 20h30. Ce sera environ une demi-heure plus tard, fin mars, mais ça changera radicalement après le passage à l'heure d'été, le dimanche 29, avec ensuite le coucher vers 20h30 et la nuit à 21h30, ce qui inaugure la saison où on va commencer à observer assez tard, bien plus que 22h en été. Comme nous sommes encore en plein hiver, même si la météo de ces derniers jours peut nous en faire douter, en début de nuit, le ciel est dominé au sud par les constellations de la saison. Même si vers l'ouest, on peut encore reconnaître Pégase en train de se coucher, surtout dans le prolongement de sa diagonale, Andromède dressée presque verticalement, dans laquelle on peut observer la grande galaxie, même avec une simple paire de jumelles. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. La constellation vedette de l'hiver est le chasseur Orion, bien reconnaissable à sa figure évoquant une silhouette humaine et assez haute plein sud. On le repère facilement aux trois étoiles bien alignées qui forment sa ceinture, surnommées les rois mages, car elles apparaissent dans le ciel en début de nuit vers Noël. On peut trouver aussi qu'Orion dessine comme un papillon, dont le corps serait cette ligne de trois étoiles et les ailes formées par deux étoiles plus écartées au nord et aussi deux au sud. En réalité, ses épaules et ses pieds. Une fois repéré Orion, on peut remarquer que les étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver forme autour de lui comme un grand G majuscule. En commençant devant lui, c'est-à-dire à l'ouest, d'abord Aldébaran du taureau, nettement orangé, Capella du cocher, Castor et Pollux des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante de tout le ciel, hémisphère sud compris, et enfin Rigel le pied droit d'Orion qui est bleuté, puis on referme la barre du G majuscule avec les épaules d'Orion, Bellatrix et Bételgeuse, reconnaissable à sa couleur orangée, car comme Aldébaran, ce sont toutes deux des géantes rouges, c'est-à-dire de vieilles étoiles en fin de vie. On a ainsi situé les principales constellations de l'hiver tout autour d'Orion, et si on veut plus d'explications, on peut réécouter la chronique astro de décembre 2024, où j'avais détaillé la description du ciel d'hiver. Attention, cette année, la figure du grand G est un peu brouillée par la présence de la très brillante planète Jupiter située dans les Gémeaux. À l'est, on commence à voir se lever les constellations du printemps, notamment le Lion, bien reconnaissable, est situé juste sous les pattes de la Grande Ourse, dont la fameuse grande casserole est dressée verticalement au nord-est. En fin de mois, le ciel se sera notablement décalé vers l'ouest, avec en début de nuit Pégase déjà couché, Orion à mi-chemin de se coucher, entouré des autres constellations de l'hiver, et la moitié est du ciel peuplée des constellations du printemps, notamment le Lion, la Vierge pas totalement levée en début de nuit, et le Bouvier. Côté planète, Jupiter est sans conteste la vedette du ciel car elle est déjà haute dès le début de nuit et culmine très haut au sud, assez tôt, 21h30 en ce moment, et dès le début de nuit à partir du 15. Autant dire que ce sont les meilleures conditions pour l'observer. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ces quatre principaux satellites dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. On les qualifie de galiléens car ils ont été découverts en 1609 par Galilée grâce à sa petite lunette astronomique, un instrument bien moins puissant et précis que nos jumelles actuelles. Mercure et Mars ne sont pratiquement pas observables car trop proches du Soleil dans le ciel et Saturne est en train de les rejoindre en étant extrêmement bas en début de nuit. C'est l'inverse pour Vénus qui avait quitté le ciel du matin début novembre et qui nous revient progressivement dans les lueurs du crépuscule à partir de la mi-mars. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par le vendredi 20, où un très fin croissant dominera la très brillante Vénus dans les lueurs du crépuscule. Puis le jeudi 26, où la Lune à peine gibbeuse s'approchera de la brillante Jupiter. Et dimanche, le 8 mars, il y aura un rapprochement très serré de Vénus et Saturne, séparés de moins de 1 degré, c'est-à-dire moins que la largeur d'un doigt bras tendu. Mais difficile à voir car les deux planètes seront très basses au-dessus de l'horizon ouest. À partir du 11 et jusqu'à la fin du mois, on pourra voir l'ISS traverser le ciel en soirée, entre 19h40 et 21h40 selon les jours. Les horaires précis sont indiqués sur la page Ciel du mois de notre site web. Enfin, trois autres événements qui sont plutôt du domaine du calendrier, car ne donnant pas lieu à une observation particulière. Hier, 3 mars, il y avait une éclipse totale de Lune, mais invisible en Europe, car la Lune était couchée quand cela s'est produit. Mais que nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna ont pu observer la nuit dernière, car elle était surtout visible dans la zone Pacifique, de l'est de l'Asie et de l'Australie jusqu'à l'ouest de l'Amérique du Nord. Le vendredi 20 mars, ce sera l'équinoxe de printemps, à 15h45, si on veut être précis, quand le soleil, dans sa course annuelle dans le ciel, franchira l'équateur. Cela marque pour nous conventionnellement la sortie de l'hiver et l'entrée dans le printemps, mais l'automne dans l'hémisphère sud, où les saisons sont inversées par rapport à nous. Je rappelle que l'origine des saisons se trouve dans l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au soleil, d'où l'inversion entre les hémisphères sud et nord. Et le dimanche 29 mars, nous repasserons à l'heure d'été, en avançant nos horloges de 1 heure, à 2 heures on passe à 3 heures. Contrairement à l'équinoxe, cela n'a aucun rapport avec un phénomène astronomique, mais c'est juste une disposition pour économiser l'énergie en bénéficiant de soirées plus longues. Malheureusement, cela pénalise les observateurs du ciel nocturne avec une nuit qui survient plus tard. Et il y a un autre rendez-vous à noter dans notre calendrier, car l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui organise les fameuses Nuits des étoiles en août, après avoir échoué à instaurer une manifestation analogue en février, a opté depuis 2025 pour les Nuits de l'équinoxe, qui, comme leur nom l'indique, se déroulent près de l'équinoxe de printemps, cette année du vendredi 20 au dimanche 22 mars. Comme mon petit club astro de Dordogne n'y participera pas, je n'ai pas pensé à inviter les clubs girondins pour venir nous parler de leurs animations, comme nous le faisons pour les autres grands rendez-vous avec le public dans l'année. Mais j'ai vérifié sur leur site en ligne ce qu'ils proposeront. Pour AG33, Astronomie Gironde 33, comme ces dates tombent le week-end où ils ont l'habitude de faire une sortie d'observation dans une ferme du Lot-et-Garonne, ils ont décalé leur nuit de l'équinoxe au samedi 14 mars, où ils accueilleront le public sur leur site d'observation habituel du mémorial de la ferme de Richemont à Saucat, dès le coucher du soleil. L'association Vega de la Lyre à Vert accueillera le public à son observatoire le samedi 21 mars, dès 15h, pour l'observation du soleil et des animations autour du système solaire, puis bien sûr l'observation au télescope en soirée. Il sera possible de pique-niquer sur place et, même si ce n'est pas précisé, je pense qu'il y aura des boissons chaudes proposées. JAL Astronomie organisera une soirée d'observation publique sur le site de son observatoire, également le samedi 21 mars à partir de 20h30. Le site de la SAB, Société Astronomique de Bordeaux, n'indique aucune animation pour cette occasion. Mais elle est moins concernée par les observations car ses activités sont plus orientées vers les expositions et les conférences. Comme le 11 mars, sur le thème « À la recherche des neutrinos, comment voir l'invisible ?» ou le 25, « L'histoire de l'âge de la Terre ». Toutes les deux, de 18h30 à 20h, à l'hôtel des sociétés savantes, près du Muséum d'histoire naturelle au Jardin public de Bordeaux. Et pour conclure cet agenda, sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. J'y parlerai probablement des cycles solaires et des aurores boréales, ce qui correspond à une actualité personnelle, car je dois m'envoler en fin de semaine prochaine vers la Norvège, plus précisément les îles Lofoten, ou en espérant pouvoir en observer si la météo le veut bien.
Allez, merci beaucoup Michel, on vous souhaite bon voyage.